Vous écoutez
RMC.
Très bon réveil à tous. Merci d'avoir choisi RMC. Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le chômage pourrait être touché pendant moins longtemps en cas de rupture conventionnelle. Syndicats et patronats ont trouvé un accord pour changer les règles, mais ce n'est pas encore tout à fait acté. C'est le combat de sa vie. Rachida Dati lâche le ministère de la Culture pour se consacrer à sa campagne pour la mairie de Paris. Et puis ça passe pour le PSG en Ligue des Champions, qualifié sans briller grâce à un match nul de partout contre l'AS Monaco.
Les règles vont peut-être bientôt changer pour les ruptures conventionnelles.
Une première étape a en tout cas été franchie hier après plus de 10 heures de négociations. Le patronat et une partie des syndicats ont donné leur accord pour réduire la durée d'indemnisation après une rupture de contrat à l'amiable. L'accord doit être signé au plus tard dans un mois, rejeté pour l'heure par la CGT et la CFE-CGC. Mais si c'est acté, Inès Zegloul, la durée d'indemnisation sera donc moins longue.
Aujourd'hui logés à la même enseigne que les autres chômeurs, les demandeurs d'emploi de moins de 55 ans issus de ruptures conventionnelles pourraient demain toucher leur chômage pendant 15 mois au lieu de 18. Pour les plus de 55 ans, ce serait 20 mois et demi maximum de leur côté. Ils perdraient donc 2 à 7 mois d'indemnisation. L'objectif, disent les signataires, un retour plus rapide vers l'emploi. Et pour cela, eh bien, ils prévoient un accompagnement personnalisé, renforcé, dans le cadre duquel une dérogation est prévue pour les seniors qui pourront demander une prolongation de leur indemnisation, accordée ou non. La décision reviendra à France Travail. Au total, se félicite le patronat, 940 millions d'euros d'économies à terme au plus grand dam de certains syndicats. C'est presque le double de ce que demandait le gouvernement.
Elle quitte la culture pour briguer la mairie de Paris. Rachida Dati démissionne de ses fonctions de ministre pour se consacrer pleinement à sa campagne des municipales. À moins de 3 semaines du scrutin, elle a joué les prolongations, Sonia Gobry.
Oui, elle était déterminée à repousser sa démission, quitte à jouer avec les nerfs du Premier ministre Sébastien Lecornu. Rachida Dati tient maintenant à montrer qu'elle a choisi sa date de sortie pour se lancer dans la bataille de Paris.
J'avais décidé de quitter le gouvernement avant les élections municipales pour me donner pleinement dans cette campagne. J'avais une mission à terminer. J'ai été très heureuse d'être ministre de la Culture, mais le combat de ma vie, c'est Paris.
Et pour ce combat, elle a le soutien du président. Emmanuel Macron lui adresse tous ses encouragements pour cette dernière ligne droite. Les prochaines semaines seront décisives, souligne Rachida Dati, surtout qu'après un démarrage de campagne tonitruant, il y a eu un moment de flottement, concède un de ses proches. Mais dans son camp, on croit au rebond. Les signaux repassent au vert, estime l'un de ses soutiens. Il en veut pour preuve le dernier sondage en date qui la donne gagnante au second tour. Mais ce scrutin reste très indécis, rappelle l'une de ses colistières. Alors Rachida Dati réitère les appels au vote utile en sa faveur.
Et notez que Rachida Dati sera mon invité sur RMC à 8h30.
Emmanuel Macron salue une avancée dans le sens d'un modèle humaniste après le nouveau feu vert des députés sur la loi sur la fin de vie. Proposition de loi qui vise à créer un droit à mourir. Le texte arrivera au Sénat en avril.
7h04 et c'est le printemps avant l'heure. Il n'a jamais fait aussi chaud dans certaines villes pour un mois de février.
139 communes ont battu des records de température hier. 21 degrés à Angers, 22 à Orléans. Douceur jamais vue pour février, Célestin Bougère.
À Biscarrosse, il a fait plus de 26 degrés hier, un record pour cette période de l'année. Au bord de la mer, Au-delà, gérante du restaurant Lambrin, n'a pas l'impression d'être en hiver.
C'est clairement une ambiance été, oui.
Les tables sur sa terrasse sont maintenant prises d'assaut.
Il y a 15 jours, on faisait 90% de chocolat chaud et de café. Là, aujourd'hui, on est reparti dans la bière, les boissons fraîches, les glaces.
Même en altitude, les températures se sont envolées. 21 degrés, par exemple, à Chamonix, perché à plus de 1000 mètres dans les Alpes. C'est la plus haute température enregistrée pour un mois de février. Résultat, le restaurant de fondue savoyarde et de raclette où travaille Charlotte est un peu vide.
Vu qu'il fait grand beau, les gens ils sont tous dehors et ils viennent pas trop manger au restaurant. La semaine d'avant, il neigeait. Voilà, c'est totalement différent.
Pour le météorologue Patrick Marlière, cette journée record risque de se répéter dans le futur.
On doit cela à une vague de chaleur qui est remontée du bassin méditerranéen, qui envahit vraiment toute la France, le dérèglement climatique, il intensifie ces phénomènes. Donc, à chaque fois, on va battre des records car il va faire effectivement de plus en plus chaud. Ça, c'est indéniable et on ne pourra pas les éviter.
Des températures qui devraient redescendre à partir de ce week-end pour revenir à des normales de saison.
La tension va-t-elle redescendre entre l'Iran et les États-Unis? Troisième session de pourparlers aujourd'hui à Genève, en Suisse, pour tenter de sortir de ce flou. Ni guerre, ni paix, selon les mots du président iranien Cassandre Breaux. Au cœur des discussions du jour, le programme nucléaire iranien.
Oui, les Américains souhaitent que les négociations aboutissent sur une garantie que l'Iran ne va pas se doter de l'arme atomique. Donald Trump accuse l'Iran d'avoir développé des missiles qui peuvent menacer l'Europe et bientôt atteindre les États-Unis. Ce dont Téhéran se défend, le gouvernement iranien serait tout de même prêt à des concessions, selon Thierry Coville, chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Iran.
L'Iran proposerait maintenant aux Américains, pour calmer leurs inquiétudes, dire voilà, j'arrête d'enrichir l'uranium pendant plusieurs années. Et par contre, vous reconnaissez ce droit d'enrichir l'uranium à un faible niveau qui permet de fabriquer de l'électricité.
Mais à la veille de ces nouvelles discussions, Washington a adopté une série de sanctions sur le pétrole iranien. Jed Evans, le vice-président américain, a conseillé hier à l'Iran de prendre au sérieux les menaces américaines.
Reste à savoir comment cela se passera en réalité. Le chef de la diplomatie américaine a parlé cette nuit d'un gros problème. Il accuse Téhéran de refuser de parler de son programme de missiles balistiques. Marco Rubio qui appelle également Cuba à changer radicalement. Les États-Unis agiront en conséquence, dit-il, après que des gardes-côtes cubains ont tué 4 occupants d'un bateau immatriculé en Floride. La Havane dénonce une tentative d'infiltration à des fins terroristes. Les tensions sont remontées d'un cran entre les deux pays depuis la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro.
Il est 7h06 en Ligue des Champions. Les tenants du titre se sont fait peur hier.
Ouais, mais ça passe pour le Paris Saint-Germain qui file en 8e grâce à un match nul de partout contre l'AS Monaco, qualifié sans briller. Mais Paris peut se projeter, Valentin Jamin.
Oui, il y a juste la satisfaction de s'être qualifié malgré un contenu très moyen. Lucide, le milieu Joao Neves pense que son équipe va s'améliorer et rappelle le contexte.
On peut faire encore mieux, on va grandir. C'est très difficile de gagner tout et de gagner deux fois un nouveau trophée. Et c'est une compétition très difficile.
Surtout sans certains blessés dont le ballon d'or Ousmane Dembélé. Mais comme toujours depuis 2012, le PSG est en 8e de finale. Soit contre Chelsea qui l'a battu en finale du Mondial des clubs, soit face à Barcelone que Paris a déjà dominé cette saison. Mais au fond, peu importe pour l'entraîneur Luis Enrique.
Ce qu'on a montré pendant cette saison, c'est notre résilience, notre capacité à surmonter des problèmes. Et s'il y a une équipe dans la compétition qui a ou les pires groupes, c'est nous. S'il y a une équipe prêt, c'est nous. On est habitué à jouer ce type de match contre n'importe quelle équipe.
Les Parisiens seront fixés à l'issue du tirage au sort demain midi.
Et de son côté, le Real Madrid s'est qualifié aussi dans la douleur. Victoire 2-1 contre le Benfica.
C'était le journal de Clara Gabillet. N'oubliez pas, il est 7h08 dans la demi-heure qui vient. Je vous offre vos vacances. Restez bien à l'écoute sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, on va revenir sur ce vote hier en première lecture à l'Assemblée. Vote qui a adopté l'aide à mourir. Mais avant cela, les messages que vous nous laissez sur le WhatsApp de l'émission ou au 3216.
Et notamment sur cette réforme du compte personnel de formation. À partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus utiliser l'intégralité de ce que vous possédez sur ce CPF. Il y a des plafonnements, par exemple, pour le permis de conduire. C'est 900 euros maximum. Le reste sera à votre charge. On a Christian qui nous dit bah, c'est dommage pour les formateurs dont je fais partie. Ça fait moins de travail et c'est toujours à cause de la baisse du budget de nos clients. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, nous dit Christian, parce qu'on essaye de remettre des chômeurs et des gens qui sont sans travail au boulot et on ne leur donne pas les moyens de le faire. On a aussi Yannick qui nous dit bah, c'est encore une mauvaise nouvelle pour les travailleurs, cette réforme du CPF. Ça vous donne envie d'arrêter de travailler au lieu de prendre des mesures pour ce travail. Les politiques font en sorte que l'on soit dégoûté d'aller travailler. Vous êtes nombreux à réagir et vous continuez sur le WhatsApp au 06 12 424 424.
Et dans un instant, cette question, l'aide à mourir, est-ce que c'est, comme le dit Jérôme Marty, pousser les gens à partir pour faire des économies? Jérôme Marty, le médecin des GG, qui est avec nous dans un instant, président de l'Union française pour une médecine libre, hier, avec 299 voix pour et 226 voix contre, l'Assemblée a adopté donc pour la deuxième fois la loi créant un droit à l'aide à mourir. C'est une étape supplémentaire en faveur donc de ce droit à mourir. Je vous attends dans un instant pour venir réagir et interpeller Jérôme Marty. Vous connaissez le chemin, c'est le 32-16, il est 7h10.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe. Il est 7h11 et vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story. Hier, la loi sur la fin de vie et celle sur les soins palliatifs ont été adoptées par l'Assemblée nationale. Bonjour Jérôme Marty, vous êtes le médecin des GG, vous êtes aussi président de l'Union française pour une médecine libre. Hier, vous avez écrit sur les réseaux sociaux ces mots, vous l'avez dit, c'est glaçant, vous redoutez qu'aujourd'hui, au fond, on donne le choix aux gens en fin de vie entre, en gros, faire des économies, mourir, et que les choix ne soient pas vraiment faits en toute lucidité. Vous êtes inquiet ?
Oui, je suis très inquiet pour une de Malherbe, évidemment. Et ça me glace, comme je l'ai écrit, parce que on ne peut pas ignorer cet éléphant dans la pièce qui est la possibilité de faire des économies sur le départ des patients. Pourquoi je dis ça ? C'est extrêmement violent de dire ça, mais notre société est violente. Il y a une inégalité d'accès aux soins, on le sait. Cette inégalité, elle est sur tout le territoire. Cette inégalité, elle n'est pas seulement d'accès aux soins, elle est aussi économique, elle est aussi sociale. On sait que, malheureusement, l'écart d'espérance de vie entre les 5% les plus aisés et les 5% les plus pauvres, il est de 13 ans. On sait qu'au Canada, 58% des demandes d'euthanasie, c'était des faibles revenus. On sait que pour avoir la liberté de choix, et on demande tous à ce que nos patients aient la liberté de choix, il faut légiférer, évidemment. Mais cette liberté de choix, pour l'avoir, il faut pouvoir avoir l'accès à des soins palliatifs de qualité partout sur tout le territoire.
Si nous étions vraiment égaux, au fond, ce que vous dites, c'est si nous étions vraiment égaux face à l'accès aux soins, face aux soins éventuellement à domicile, au soulagement de la souffrance, alors on pourrait envisager cette liberté de choisir, en quelque sorte. Mais pour vous, il n'y a pas de liberté parce que le choix est biaisé.
Mais le choix est biaisé quand vous êtes seul face à votre propre souffrance, face à votre dépendance, que vous n'avez pas d'équipe de soins autour de vous, que vous ne pouvez pas y accéder. Votre choix n'est pas le même que si vous êtes très entouré, choyé, accompagné, avec des gens formés. C'est pas du tout la même chose. Si vous êtes sûr de ne pas pouvoir souffrir, de ne pas avoir de dépendance, ou du moins d'avoir une dépendance qui est accompagnée, structurée, pour faire qu'elle est vivable, ben à ce moment-là, votre choix ne sera évidemment pas le même. Je vous donne juste un chiffre qu'il faut avoir bien en tête.
Allez-y.
Les dépenses publiques de santé en lien avec la dernière année de vie, c'est 31 000 euros par personne, c'est 20 milliards par an. Le déficit de la Sécu aujourd'hui, il est autour de 20 milliards aussi. Ce que je veux dire, je ne fais pas un raccourci rapide, mais je veux dire par là que ignorer le fait que mettre tout le poids de la balance dans le départ organisé, sans financer comme il le faut les soins palliatifs, forcément à Bercy, on calculera de façon assez sordide.
Pour vous, le choix sera fait là-dessus. Alors il y a aussi, malgré tout, une question qui sont vraiment ceux qui sont, et d'ailleurs vous faites une distinction, me semble-t-il, entre ceux qui ont des maladies comme la maladie de Charcot, et effectivement ce qui pour vous deviendra une forme, comme ça s'est passé au Canada, de soulagement, y compris de ses proches, en se disant, bon, je vais arrêter de peser sur mes proches et je vais donc partir. C'est ce qui, effectivement, ressort d'un certain nombre d'études au Québec. Mais je voudrais, docteur, que vous puissiez aussi répondre à Albert, qui nous a appelé au 3216. Bonjour, Albert.
Bonjour.
Albert, vous êtes chef d'entreprise à Chuzel, dans l'Isère, au sud de Lyon. Il me semble que, de votre côté, vous avez accompagné votre père, vous avez été l'accompagner en Suisse. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Tout à fait. Alors voilà, mon père était en cancer métastasé la prostate. Il avait des métastases au niveau des lombaires et il avait des douleurs insupportables depuis de nombreuses années, traité uniquement à la morphine, en partie de son choix. En décembre 2024, il a choisi de mettre fin à ses jours par lui-même. C'était vraiment sur des douleurs insupportables. Il a atterri dans un parcours de soins palliatifs en hôpital. Il a été traité au Medipôle de Villeurbanne, qui a mis en place un soin d'apaisement, on va dire, sur les douleurs. Et suite à ça, il pouvait pas le garder dans l'hôpital, puisque comme l'a dit Monsieur Marty, manque de moyens et manque de financement, manque de tout. Du coup, il est parti en EHPAD où il est resté 3 mois et j'ai eu il m'a demandé de mettre en place le parcours pour aller en Suisse et mettre fin à ses jours selon ses volontés. Et il est parti voilà, jusqu'au dernier moment. Il avait, pour le coup, vu qu'il avait le traitement contre la douleur qui lui permettait de pouvoir marcher correctement, il est parti sur ses deux jambes avec le sourire.
Donc vous voilà, n'avez aucun regret aujourd'hui, Albert?
Zéro regret, zéro regret. Mmh. J'ai accompagné mon père jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier souffle. Il portait encore le sourire et voilà, ça n'a pas été un moment douloureux ni enfin voilà, j'ai été entouré par l'association qui a géré ça en Suisse. J'ai eu vraiment mes zéro regrets.
Je voudrais que le docteur puisse réagir. Docteur Marty, qu'est-ce que vous dites à Albert?
Mais que ce que nous dit Albert est central, et c'est ce qu'on vit tous les jours. Il le dit très bien, il a eu, son père a eu des soins palliatifs, ses soins palliatifs n'ont pu le garder faute de moyens, il est allé ensuite en EHPAD, et il a pu ensuite faire son choix de décéder comme il le voulait, et il l'a fait en Suisse. C'est pour ça qu'il faut légiférer à l'évidence. Mais ce que je dis, c'est que tout le monde n'a pas la chance d'être entouré comme l'a été le père d'Albert. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille aimante. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir les moyens de l'accès aux soins, etc. Il y a dans notre population quantité de gens qui sont laissés à eux-mêmes et qui n'ont pas ces possibilités-là et qui n'auront pas le choix, qui n'auront pas d'autre choix que de partir pour ne pas être une charge, de partir parce que leur souffrance est trop grande et ne peut être aménagée, ne peut être accompagnée. Et c'est cela que je désigne. C'est une société qui abandonne ses plus fragiles. Et ça, c'est gravissime. Moi, je veux qu'on légifère, mais je veux que des deux côtés connaissent cette possibilité de choix, c'est-à-dire que on sait que
qu'on 460... puisse aussi rester. Au fond, d'ailleurs, je vais poser la question à Albert. Albert,
oui.
Au fond, ce que vous nous dites sur le passage dans les soins palliatifs, est-ce que si votre père, on lui avait dit, vous pouvez rester autant que vous voulez dans ces soins palliatifs qui soulagent votre souffrance, plutôt que de repartir en EHPAD, comme vous avez dit qu'il a été contraint de le faire, est-ce que vous pensez que votre père aurait préféré rester en soins palliatifs?
Non.
Il
était autonome à domicile. Il était vraiment en complète autonomie, en pleine possession de ses moyens. Il avait juste vraiment des douleurs qui devenaient totalement insupportables.
Que même les soins palliatifs n'arrivaient plus à soulager.
Ils ont réussi à le soulager temporairement, mais après on rentrait dans des cercles. Si vous voulez, quand vous administrez des corticoïdes à haute dose et d'autres molécules, ça a forcément des impacts sur d'autres parties de votre corps, et vous rentrez dans des cercles vicieux où il y a des parties de votre corps qui vont réagir à ces traitements, et vous allez forcément rentrer dans des choix où vous allez calculer le bénéfice risque à chaque fois, et il n'en pouvait plus.
Non, mais c'est pour cela aussi qu'on met en place une sédation profonde et prolongée. C'est pour ça que les équipes sont formées pour cela, etc. Ensuite,
chaque cas est
individualisé. Chaque cas est différent, et je sais aussi, moi, par mon expérience, qu'il y a plusieurs vérités par malade. Chaque malade, elle est tenteur de plusieurs vérités, et ces vérités, elles sont différentes suivant
Je voudrais aussi, docteur, que vous puissiez nous dire ce que vous dites. Au fond, cette loi n'est pas arrivée complètement au bout. Ce que je comprends bien, c'est que pour vous, il faut légiférer, mais les garde-fous ne sont pas suffisants. Qu'est-ce que vous dites, là, aux députés et aux sénateurs qui ont encore donc la fin du processus législatif entre les mains?
Mais je leur dis qu'il faut donner les moyens au secteur palliatif. Je leur dis qu'il y a 470 000 Français qui doivent relever de ce secteur palliatif, qu'il y en a juste 80 000 qui y accèdent, et que donc on crée une inégalité d'accès. Et cette inégalité d'accès va biaiser le choix de ces patients. Et dans une société moderne, dans une société humaine, on ne peut pas accepter que la loi institutionnalise l'inégalité d'accès et la différence de choix. C'est pas possible. La liberté, c'est le choix. L'égalité, elle est au centre du soin. Là, elle n'y est pas. Il n'y a pas d'égalité. La fraternité, elle est au centre du soin. Il n'y a pas de fraternité non plus, puisque quantité de gens sont laissés seuls à eux-mêmes et qu'on n'aménage pas les choses pour que chaque Français ne soit pas laissé seul à soi-même.
Quoi. Merci.
Encore une fois, la dernière année de vie, c'est 31 000 euros. Les dernières années après 85 ans, le coût du maintien à domicile, c'est 2 070 euros par mois. Combien de Français peuvent se payer ça? Combien de Français peuvent se payer des aidants? Combien de Français peuvent se payer des auxiliaires de vie? etc. Il y a tout ça qu'il faut revoir dans notre pays. Sinon, on laissera un choix par défaut qui est celui du départ pour ne pas gêner ou du départ pour faciliter son entourage. Ça,
c'est merci pas beaucoup. Merci beaucoup, docteur, d'avoir défendu votre parti pris ce matin sur RMC. Et merci à Albert pour son témoignage. Il est 7h22 et on va remonter le temps dans un instant. Et ce matin, c'est Thierry Lenz qui est avec nous. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Vous êtes historien et directeur de la Fondation Napoléon. Un fleuron de l'industrie française est en difficulté. Seb, on a tous dans nos cuisines un appareil Seb et c'est menacé.
Poêle, autocuiseur, cocotte minute, en effet, on a tous quelque chose de Seb en nous.
Et vous nous le dites dans un instant, ne bougez pas, on se retrouve dans 30 secondes sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h23 et c'est l'heure de remonter le temps comme chaque matin. Arthur Chevalier sera de retour demain, mais on accueille Thierry Lenz. Bonjour Thierry, vous êtes directeur de la Fondation Napoléon, historien. Grand plaisir de vous accueillir. Plus de 2000 postes pourraient être supprimés chez Seb, dont 500 en France. Plan d'économie présenté hier par le groupe d'électroménagers. Et Thierry, avec Seb, pour vous, c'est le fleuron de l'industrie française qui est en difficulté.
Et oui, Napoléon, ça fait 170 ans que ça dure et que Seb écrit l'histoire de nos foyers. Tout a commencé en 1857, donc sous le règne de Napoléon III, lorsqu'un petit emboutisseur de Selonger, en Côte d'Or, qui s'appelait Antoine Lescure, s'est lancé dans la production de ferblanterie, le ferblant étant, comme chacun le sait, un acier mince et souple. Alors cette entreprise a été transmise à ses fils, à ses petits-fils, à ses arrière-petits-fils, et elle a pris le nom de Seb en 1944. Apolline, vous savez ce que ça signifie, Seb ?
Non.
Société d'emboutissage de Bourgogne.
Ah. Alors, les premiers succès de Seb, ce sont des ustensiles de cuisine.
Eh oui, ils vont changer la vie des familles à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, puisque Seb va produire des objets ingénieux, pas chers, produits en série. Parmi les plus marquants, le presse-lait, qui permet de récupérer la crème du lait, le presse-purée que tout le monde connaît. Il change la vie des Françaises et des Français en leur rendant un bien précieux, le temps.
Et c'est en 1953 que Seb lance son produit phare.
Ah, la fameuse cocotte minute.
Voilà.
Cinq ans plus tôt, les Lescure ont eu le nez creux. Ils ont racheté le brevet d'un autocuiseur inventé par l'ingénieur Robert Devedjian. Devedjian s'était lui-même inspiré des travaux menés dans les années 1680 par un autre Français, Denis Papin. Celui-ci n'a pas seulement inventé la machine à vapeur, comme chacun le sait. Il a mis au point une marmite en fonte capable de transformer les aliments durs en aliments mous, faciles à consommer. Il la baptise le digesteur.
Le digesteur, ouais, ça s'appelait ?
Alors avec les Lescure et leurs brillants ingénieurs, on passe du digesteur à l'autocuiseur, la fameuse super cocotte Seb.
La libération de ma grand-mère. Il s'en est vendu donc depuis 75 millions, de quoi permettre le développement de Seb en France et à l'international.
Et oui, Seb est une entreprise bien gérée, innovante, et elle a racheté 2 douzaines de marques dont on a tous un produit à la maison, Calor, Tefal, Roventa, Moulinex, Croupe. On est passé du presse-purée aux cafetières électriques, aux aspirateurs, sèche-cheveux, cocotte minute de Xème génération et désormais aux robots qui font tout, presque avec amour. 169 ans après sa fondation, Seb emploie 33 000 personnes partout dans le monde. La famille Lescure reste le principal actionnaire de l'entreprise. Une belle histoire industrielle française qui affronte depuis plusieurs années les problèmes habituels. Les Chinois, les charges, les impôts, les taxes. Reste à espérer que cette belle et grande histoire réserve tout de même à la société d'emboutissage de Bourgogne un bel avenir.
Merci beaucoup Thierry Lenz, historien, directeur de la Fondation Napoléon, d'avoir remonté le temps de nos robots. Vous voulez réécouter la chronique, vous n'hésitez pas à tout moment sur le site rmc.fr ou sur l'application. Il est 7h26 et on va vous faire jouer et gagner, je vous l'avais promis. On vous offre vos vacances toute la semaine, chaque matin, vos prochaines vacances à la mer ou à la montagne. Un séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et hôtels Bellambra, spécialiste des clubs de vacances pour les familles en France. Vous allez pouvoir choisir parmi 45 destinations dans les plus beaux endroits de France. Bellambra s'occupe des enfants, des activités et des repas. C'est le tout compris premium. Pour remporter vos vacances Bellambra, vous envoyez dès maintenant vacances au 7-32-16. Vacances au 7-32-16 et le gagnant sera en direct avec moi à 8h20. Bonne chance à tous.
Gagnez vos vacances dans Apolline Matin sur RMC avec Bellambra. Bellambra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Il est 7h27, on se retrouve dans un instant sur RMC et RMC Story pour la météo et le journal. Restez bien avec nous. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Danjean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. On en sait plus ce matin sur le terrible accident de la route qui a fait 3 morts, dont 2 adolescents dans le Pas-de-Calais. C'est un jeune de 15 ans qui était au volant de l'une des 2 voitures. La flambée des prix du gaz à partir de dimanche, plus 4 à 5% en moyenne, soit une hausse jusqu'à 75 euros par an pour une partie des Français. Et puis Monaco est passé tout près de l'exploit en Ligue des Champions hier soir, mais c'est finalement Paris qui file en 8e de finale. Une qualification dans la douleur.
Comment un adolescent de 15 ans a-t-il pu se retrouver au volant d'une voiture et provoquer un accident de la route aussi grave ?
C'est la question que tout le monde se pose ce matin à Libercourt, dans le Pas-de-Calais, où la voiture de 4 jeunes a percuté de plein fouet celle d'un père de famille dans la nuit de mardi à mercredi. L'homme est mort sur le coup, les 2 passagers arrière du conducteur de 15 ans aussi. Il est gravement blessé. Un bilan terrible qui provoque l'incompréhension dans la commune où vous vous êtes rendu pour RMC, Amélie Courté.
Sur cette route limitée à 50 km/h, l'accident a laissé des traces, le tronc d'un arbre déchiqueté, la tristesse des habitants.
C'est dur, ça choque quand même. Hein.
Et beaucoup d'interrogations.
4 jeunes de 15 ans à 3h du matin, qu'est-ce qu'ils font sur la route ?
Franchement, on comprend pas.
Non. On comprend pas.
Le vide dans les yeux de Sylvie et Cathy, les mamans connaissent plusieurs des mineurs impliqués dans l'accident.
C'est des enfants qui sont volontaires, oui. Qui aiment aider.
Ils avaient la joie de vivre, quoi.
Et puis ils font partie de l'équipe de basket aussi. Ouais. Enfin, c'est des bonnes personnes.
Et qu'est-ce qui leur est passé par la tête ? On n'en sait rien.
Alors au téléphone, elle interroge sa fille, Capucine, proche de 2 des garçons. Elle a eu des nouvelles par des amis en commun.
Il y en a 2 qui voulaient faire des tours en voiture. Les 2 autres, ils étaient un peu réticents, mais ils les ont forcés. Donc ils sont montés à 4 dans la voiture.
Et la voiture appartenait à qui ?
C'était à sa sœur.
Quand elle raccroche, Sylvie ajoute...
Elle est choquée de la mort de ses amis, mais elle est encore plus choquée. Pour elle, elle dit « Maman, ils ont tué un papa de famille ».
Rachid avait 2 enfants et allait être de nouveau père dans 1 semaine. Ce chauffeur poids lourd se rendait au travail au moment du drame. Une grosse bêtise, résume une habitante que certains ont payé de leur vie.
Lui arrive au bout de sa peine. Pierre Palmade va se voir retirer son bracelet électronique demain, 3 ans après le grave accident de la route qu'il a provoqué sous stupéfiants en Seine-et-Marne. Bracelet électronique qui pourrait mettre un stop aux ambitions présidentielles de Marine Le Pen. La chef des députés RN l'a redit hier soir sur BFM. En cas de condamnation en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du FN, elle ne fera pas campagne, et ce, même si elle est éligible.
Je suis pas fataliste, je sais très bien que la décision de cette candidature ne dépend pas de moi. Elle dépend aujourd'hui de 3 magistrats qui décideront si oui ou non les millions de Français qui veulent voter pour moi pourront le faire ou pas. Je ne peux pas être candidate si on m'empêche d'être candidate ou si on m'empêche de faire campagne. Vous imaginez bien que si la Cour suit le tribunal qui m'a condamné au port d'un bracelet électronique, je ne pourrais pas faire campagne. Vous pouvez faire campagne sans aller le soir rencontrer vos électeurs dans des meetings, sans aller le week-end. Ce serait une autre manière de m'empêcher, évidemment, d'être candidate.
Réponse attendue, on le rappelle, le 7 juillet prochain. Et pour celui ou celle qui accédera à l'Élysée en 2027, il faudra peut-être racheter de la vaisselle après le vol de plusieurs pièces revendues à des milliers d'euros pendant plus de 2 ans. 3 hommes sont jugés à partir d'aujourd'hui, et notamment l'ancien maître d'hôtel argentier de la présidence de la République, Constance Bostoen.
Oui, en poste depuis plus de 5 ans, c'était lui qui avait pour mission de dresser les tables officielles et de gérer les stocks. Cet ancien maître d'hôtel argentier qui comparait aujourd'hui devant le tribunal correctionnel aurait ainsi subtilisé pendant 2 ans 100 de pièces de porcelaine classées, des assiettes, des soucoupes, des tasses qui servaient toutes au dîner d'État. Les disparitions sont si nombreuses que les services de sécurité du palais ont fini par être alertés. Il est aujourd'hui jugé aux côtés de 2 complices, son compagnon antiquaire et un collectionneur versaillais passionné de porcelaine qui l'aurait convaincu de revendre les pièces. Ironie du dossier, ce dernier était aussi salarié au musée du Louvre où il a désormais interdiction de travailler. Tous 3 ont reconnu les faits en garde à vue et une grande partie des objets a été retrouvée.
Elle aura attendu la toute dernière minute pour démissionner. Rachida Dati quitte le ministère de la Culture. Elle l'a annoncé hier soir pour se consacrer pleinement à la campagne des municipales à Paris qui se tiendront dans 2 semaines et demie. Elle répondra aux questions d'Apolline à 8h30 sur RMC. Et ce sera l'un des enjeux de ces élections municipales. Les prix de l'énergie et notamment du gaz, car ils vont fortement augmenter à partir de dimanche, plus 4 à 5% en moyenne. Alors sans attendre, les Français au gaz tente de s'adapter, Rachel Sadodine.
En colocation dans un logement entièrement chauffé au gaz, Paul surveille tous les jours sa consommation.
J'ai tout sur mon téléphone,
Sur le gaz, on paye à peu près 150 euros par mois l'hiver. Donc, savoir que ça va encore représenter une part supplémentaire, ça ne me ravit pas de l'apprendre. On fait déjà attention, on fera encore plus attention.
Le jeune travailleur réfléchit même avant d'allumer sa gazinière.
On fait chauffer notre eau, voilà, à la casserole. On n'a pas de bouilloire. Donc ça, c'est peut-être le prochain investissement pour économiser sur le gaz.
Quels sont les petits efforts que vous faites au quotidien pour essayer de réduire au maximum la facture ?
Baisser le chauffage dès qu'on peut. La nuit, on coupe, on prend des douches assez rapides.
Autre solution à envisager avant le 1er mars, changer carrément de contrat. C'est le conseil de Sylvain Lefaleur, cofondateur du comparateur de fournisseurs de gaz Elowatt.
Aujourd'hui, il y a des bonnes offres à prix fixe qui donc ne vont pas subir la hausse de 5%. Donc nous, on conseille de comparer pour vérifier qu'il n'y a pas des meilleures offres, qu'on ne peut pas payer notre gaz moins cher, tout simplement.
Car selon Elowatt, la hausse des prix du gaz va représenter un surcoût de 75 euros par an pour les consommateurs ne bénéficiant pas de contrats à prix bloqué.
Il est 7h36 et le PSG a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions hier soir. Mais on ne peut pas dire que le tenant du titre ait brillé face à Monaco. Match nul de partout après sa victoire 3-2 à l'aller. Autant dire que les Monégasques sortent la tête haute. C'est ce que retient leur entraîneur Sébastien Pogognoli.
Fierté, j'avais dit à mes joueurs, si on pouvait faire douter un peu le PSG aujourd'hui, pour moi c'était déjà un beau succès, et on l'a fait jusqu'à la dernière seconde à 10 contre 11, donc chapeau aux joueurs. Ensuite j'ai de la frustration, parce que forcément on peut refaire l'historique des deux rencontres, terminer deux rencontres à 10, donc on se dit, et si on avait terminé à 11, qu'est-ce qui se serait passé? Voilà, c'est les deux sentiments qui ressortent, je pense pour les joueurs c'est pareil, et il faudra se servir de ça pour construire sur la fin de saison, parce que si on veut revivre des belles soirées comme aujourd'hui, il faut que ça repasse par la compétition maintenant.
Autre club qualifié hier soir, le Real Madrid. Et c'est demain que les Parisiens sauront qui de Chelsea ou du Barça ils affronteront en huitième.
Et puis le quintet, Élise, c'est à Cagnes-sur-Mer aujourd'hui.
Rendez-vous à 13h55 et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Aujourd'hui, le favori, c'est le numéro 7, Agim. L'outsider, c'est le 3, Escort Love.
C'était le journal d'Élise Dangean. Il est 7h37, on part au 32-16. Christelle, vous nous avez appelé. Bonjour Christelle. Vous nous avez appelé de Cahors. Je crois que vous avez 62 ans. Je me permets de le dire parce que vous voulez parler aussi de la fin de vie. Vous vouliez témoigner et réagir à ce que disait tout à l'heure le docteur Marty. Vous avez vécu la fin de vie de votre mère, je crois, de manière douloureuse. Vous pensez déjà à la vôtre, Christelle?
Oui, oui. Bonjour, Apolline. Oui, absolument. Alors absolument, j'y pense absolument, parce que ma mère est décédée dans des conditions avec d'énormes souffrances, et par deux fois elle m'a demandé de mettre fin à ses jours. Mmh. Ce qui est quand même quelque chose de pas ordinaire. Elle avait mon âge, 62 ans. Elle me disait je n'ai plus la force d'aller me jeter sous un train, ou bien je ne peux même plus aller acheter la corde pour me pendre. Mmh. Elle tendait les bras vers moi et elle me disait « Allez, vas-y maintenant Christelle, c'est maintenant, vas-y, fais-le. Mmh. » Et vous voyez, ça a duré pendant 2 ans. Et encore, moi, tous les matins, je me demande si je n'aurais pas dû le faire.
Vous vivez avec cette angoisse?
Et je vis avec cette angoisse, et je ne veux jamais que mes enfants aient à se poser cette question.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès maintenant, vous dites, si je suis, je sais pas, est-ce que votre mère était malade, avait de grandes souffrances?
Oui, elle était en phase terminale d'un cancer du sein.
D'accord.
Et doublée d'une maladie de Parkinson.
D'accord. Et donc vous dites, vous en parlez avec vos enfants?
Absolument. Ils ont tous les deux une lettre. Ils ont 30 et 33 ans. Ils ont tous les deux une lettre avec ce que je souhaite, dans laquelle je cite les derniers articles de la loi Leonetti, c'est-à-dire ce qu'il est possible de faire à ce jour. Mmh. Et je ne veux jamais que mes enfants se réveillent le matin en se disant « Mais comment on a pu laisser maman dans de telles souffrances ?» Parce que soit un palliatif ou pas, malheureusement, ça n'aurait absolument rien changé, puisque elle est... Les gens qui ont vu des proches partir dans des conditions comme ça savent qu'à un moment donné, il n'y a plus rien qui ne les soulage. Elle savait que c'était sans retour. Donc si c'est pour prolonger la vie, moi je dis non, quoi.
Au fond, moi, d'ailleurs, la loi Leonetti aujourd'hui répond quand même à cette question.
En partie, puisque...
Je vois que vous êtes... Enfin, je veux dire, vous êtes... particulièrement penché sur cette question-là. Ce qui me touche énormément aussi dans votre témoignage, Christelle, c'est qu'on sent qu'aujourd'hui encore, vous repensez à cette détresse de votre mère, et c'est aussi comme ça que vous le projetez. Juste une dernière question, Christelle, que vous répondent vos enfants?
Ils savent mais donc ils savent puisqu'ils ont la lettre, ils l'ont sous les yeux. Mmh. Maintenant, je ne sais pas s ils seraient capables de prendre aussi une telle décision, en fait. Mmh, mmh, même s'ils savent qu'en étant en pleine conscience, j'ai dit c'est ce que je veux. Mmh. Voilà, si à un autre moment je suis moins capable de le confirmer ou de l'exprimer parce que je perds pied, ils se poseront, je pense, quand même la question.
Merci beaucoup, Christelle, de votre témoignage précieux ce matin. Vous êtes nombreux à réagir comme Christelle au 32-16. Il est 7h40.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Un accord a été trouvé, ou en tout cas en partie, pour des ruptures conventionnelles. La durée d'indemnisation par l'assurance chômage va être réduite. 15 mois au lieu de 18 mois, c'est près d'un milliard d'euros d'économies à terme. Qu'en dit-on sur le terrain et quelles seront les conséquences très concrètes si vous tombez au chômage demain, si vous avez une rupture conventionnelle? À quel droit est-ce que vous pourrez prétendre? Bonjour Benoît Serre.
Bonjour.
Vous êtes le coprésident d'un cercle de réflexion de DRH. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais accord? Quelles seront les conséquences très concrètes sur le droit du travail, sur ceux qui veulent démissionner ou trouver les moyens d'une rupture conventionnelle? Vous nous expliquez tout dans une minute. Il est 7h41.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h44 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Les ruptures conventionnelles, un accord a été trouvé hier soir. Bonjour Benoît Serre, vous êtes le coprésident du cercle de réflexion Humania qui rassemble plus de 600 DRH, le patronat, la CFDT, la CFTC se sont donc entendus hier soir pour réduire la durée d'indemnisation au chômage après une rupture conventionnelle. Le Premier ministre salue d'ailleurs cet accord. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Est-ce que ça veut dire que les ruptures conventionnelles vont être moins avantageuses?
Alors, elles vont être. Alors, d'abord, c'est plutôt un bon accord dans la mesure où on partait de loin, parce que si vous vous souvenez, il y a quelques mois, on interrogeait quasiment la survie de la rupture conventionnelle et sur laquelle on était plusieurs, dont moi, à dire attention, touchez pas à cet outil qui est quand même très efficace et qui permet de fluidifier les choses et d'éviter les conflits sociaux. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, qu'est-ce que ça va changer? C'est-à-dire que finalement, à la fin de la négociation, c'est la valeur de la négociation, on ne touche pas au montant d'indemnisation, ce qui était envisagé à un moment, notamment par le BEDEF ou le patronat, mais on réduit un peu le durée d'indemnisation. Par exemple, pour quelqu'un, alors, après, à partir de 55 ans, ça change, mais avant 55 ans, c'était 18 mois, ça passe à 15 mois, maximum. Bon, c'est comme ça. Ce qui est plutôt pas mal, parce qu'on entre dans une phase où ce sera plus aisé de retrouver un travail, mais je reviendrai. Puis après 55 ans, puis 56 ans, 57 ans, on baisse un peu. À 55, 56, on était à 22, on est à 20. Et après, on est à 27.
Moins longtemps. Quel impact ça a? Pourquoi on fait ça, en fait? C'est à la fois pour des raisons économiques, bien sûr, mais est-ce que c'est aussi pour dire la rupture conventionnelle, c'est trop facile? C'est quoi? Il y a un petit peu de ça dans l'esprit du gouvernement et des partenaires sociaux?
L'intention de négociation sur ce sujet-là, il venait du fait que il y a eu deux arguments. L'argument économique, vous avez rappelé, le gouvernement cherchait 400 millions d'économies, on connaît la situation. Le deuxième argument, c'était de dire qu'il y avait plein d'abus. Ben, cet accord démontre que c'est pas tellement autour de ça qu'on cherche. On essaye surtout de faire en sorte que les personnes qui obtiennent une rupture conventionnelle, dont je rappelle qu'elle est signée par l'employeur et l'employé, donc il n'y a pas que l'employé qui est coupable, entre guillemets, dans cette histoire, et qu'il est validé par l'administration. Vous avez trois acteurs. Dans le fait de retrouver un emploi, parce qu'on accusait certains de profiter de vacances, bon, 15 mois, ça reste raisonnable. La clé du sujet, c'est faire en sorte que l'administration ou le service public du travail, qui est France Travail, lorsque quelqu'un, c'est une rupture conventionnelle, qu'il ait deux actions. Il ait une action de contrôle, savoir si la personne cherche vraiment, comme n'importe quel autre salarié qui a perdu son emploi, même par licenciement. Et qu'on fasse en sorte qu'il en retrouve un plus vite.
Vous avez dit, Benoît Serre, on va arriver dans un moment où il sera plus facile de trouver du boulot. Est-ce que vous pensez vraiment que les choses vont être plus fluides?
Oui, je le pense pas à cause de ça, mais à cause de, vous savez, on a une démographie catastrophique, ce qui est très mauvais pour la nation et ce qui est plutôt bon pour l'emploi. Et donc dès que l'activité économique va un peu mieux, on l'a vécu en 2022-2023, vous avez vu.
C'est-à-dire qu'il y a une techniquement tension. La pyramide des âges fait qu'il y aura
Exactement.
Moins de monde qui cherchera du boulot.
Théoriquement oui. Alors pour le moment, on l'observe pas puisqu'on est monté à 8% voire un peu plus de chômeurs, mais ça c'est plus lié à la situation socio-économique, budgétaire, politique du pays. Mais les chiffres démontrent. Après, il y a un autre aspect qui est très particulier, c'est que ce qu'on appelle le chômage résiduel, c'est-à-dire en dessous duquel vous ne pouvez pas vraiment passer, il est en moyenne de 5 en Europe, chez nous il est de 7. Et c'est en cela
on
d'ailleurs...
On n'arrive pas à passer sous
la barre. Non, mais parce que... Alors, il y a plein de raisons, mais parmi les raisons, il n'y a pas tellement le fait qu'on indemnise le chômeur plus qu'ailleurs, parce qu'en Allemagne, ils sont indemnisés moins longtemps, mais de manière plus élevée. Bon, oui, ça se compense. Je pense surtout que moi j'étais contre la fin de ces ruptures conventionnelles parce qu'elles servent à quoi ? Elles servent à fluidifier un modèle de droit du travail qui est fabriqué pour fabriquer du conflit social. Donc c'est un petit peu
là, vous n'êtes pas obligé de garder quelqu'un que vous avec qui vous les choses ne se passent pas bien et inversement.
Exactement.
Vous n'êtes pas contraint de rester. Vous pouvez.
Oui. Et puis surtout ça évite. Vous savez, ça évite quand même d'aller dans le conflit parce que quand vous n'arrivez pas.
En fait, il n'y a pas d'un côté démission sèche, de l'autre licenciement pénible.
C'est pas si simple. Justement, ça permet d'éviter les licenciements pénibles. Quand quelqu'un veut absolument partir, ou que l'entreprise veut absolument qu'il parte, vous avez deux solutions. Soit vous le licenciez, très bien, mais quand c'est la personne qui veut partir, elle va chercher une rupture conventionnelle, elle a les mêmes droits, elle est protégée, mais sinon, qu'est-ce qu'elle va faire ? Ben, elle va chercher à se faire virer.
Ça a été une révolution pour vous ?
Oui, je pense, et surtout depuis, vous savez, le barème Macron mis en place en 2017, qui plafonnait les indemnités, mais sauf si vous obteniez le harcèlement. Vous demandez à n'importe quel avocat de droit social, et vous dire à quelqu'un qui cherche le licenciement, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de prouver qu'il y a harcèlement, même s'il n'y en a pas eu, pour avoir des indemnités supplémentaires. C'était très malsain. La rupture conventionnelle, ça permet de corriger ça.
Une question sur les plus âgés. Pour les plus de 55 ans, il y aura quand même une baisse
du
nombre de mois. Alors, elle est plus limitée que pour les autres. Mais au fond, il reste une très grande difficulté en France, qui est le travail des seniors. On n'y arrive pas.
Non.
Et la réduction, quand même, va être nette pour ces gens-là.
Alors ça c'est un peu amélioré, l'emploi des seniors. On a des scores aujourd'hui qui sont les meilleurs, même s'ils sont pas très bons. Donc ça reste un problème important. C'est pour ça que le précédent accord qui avait été trouvé avec ce qu'on avait appelé à un moment le CDI senior, mais qui s'appelle le contrat de valorisation de l'expérience, on va voir si ça va aider. En attendant, là, ils sont protégés 27 mois au-dessus de 57 ans. Pourquoi 57 ? Parce que c'est l'âge auquel vraiment il y a une rupture profonde. Si vous perdez votre job à 57,
vous n'en retrouvez pas derrière.
Très compliqué. Voilà. Donc c'est plutôt une mesure raisonnable. Et d'ailleurs, il y a eu, je termine là-dessus, dans cet accord qui a été apparemment signé, trouvé cette nuit, pour les plus de 57 ans, c'est 27 mois. Mais s'ils démontrent qu'ils cherchent vraiment un emploi et qu'ils sont pas au bout, ça peut être prolongé. Donc c'est sincèrement un moindre mal et une bonne prise en responsabilité d'une situation d'emploi des seniors en France qui est absolument scandaleuse à l'égard de toute l'Europe.
Merci beaucoup Benoît Serre, vous êtes coprésident du Cercle de Réflexion Humania qui rassemble donc plus de 600 DRH. Cet accord, donc patronat, CFDT, CFTC, salué par le gouvernement pour vous, c'est un bon accord. Il est 7h50 dans un instant, on est jeudi, ce sera la voix de gauche. Bonjour Cécile Duflot.
Bonjour Apolline.
Cécile, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, doute de la compétitivité des exploitations françaises.
Et elle a tort parce que l'avenir appartient aux fermes familiales et aux productions de qualité.
Vous nous le dites dans un instant, la voix de gauche sur RMC tous les jeudis. Il est 7h51.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h52, dans un instant, la voix de gauche. Mais d'abord le bonus, et ce matin, Victor, c'est une véritable anti-sèche.
51e cérémonie des Césars ce soir, vous n'avez rien suivi, je vous résume tout. D'abord, quel est le film le plus nommé ?
Celui qui est au milieu, c'est Truffaut. À sa gauche, dans son Chabrol. Et celui avec les lunettes noires, c'est Jean-Luc.
Et c'est une nouvelle vague de Richard Linklater, un film donc sur la vie de Jean-Luc Godard en course dans 10 catégories, aussi des gros noms pour le titre de meilleure actrice. Et puis pour une fois, soyez attentifs au meilleur scénario, on retrouve un certain Franck Dubosc pour un premier sacre peut-être, lui qui disait l'an dernier.
Pas d'Oscar, pas de César, peut-être pas de prix d'interprétation à Cannes. Pour moi cette année c'est le grand chelem.
Et puisqu'on est en rayon comique, Jim Carrey recevra un César d'honneur.
Au cas où on se reverrait pas d'ici là. Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.
RMC, Apolline Matin, voix de gauche, voix de droite.
Et comme tous les jeudis, c'est la voix de gauche sur RMC. Bonjour Cécile Duflot. Cécile,
bonjour,
la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, doute de la compétitivité de nos fermes françaises. Elle dit que nous avons des exploitations de taille intermédiaire qui peinent à rivaliser avec celles des autres pays de l'Union européenne, la Pologne, la Roumanie, l'Allemagne. Ce discours d'Annie Genevard en plein salon de l'agriculture, vous le trouvez hors de propos, Cécile ?
Je le trouve surtout ringard. Annie Genevard, elle est née en 1956 et en fait, je pense que son prédécesseur, ministre de l'Agriculture en 1956, il aurait pu dire la même chose, c'est-à-dire industrialisation, mécanisation, taille des exploitations. Et surtout, elle dit des choses fausses. La taille moyenne des exploitations en France, c'est 69 hectares. En Pologne, c'est 11 hectares. En Allemagne, c'est 60. Et en Roumanie, c'est même pas 5 hectares. Donc, y compris les sujets sur lesquels elle s'appuie, sont erronés. Et je pense qu'elle se trompe beaucoup et qu'elle risque de faire du mal à l'agriculture parce qu'elle passe à côté des vrais enjeux.
C'est quoi les vrais enjeux ? Allô, Cécile ? Cécile, je vous ai perdu. Vous vouliez parler des vrais enjeux. Pour une fois que vous n'étiez pas avec nous sur ce plateau, je regrette infiniment. Cécile qui voulait donc défendre effectivement les exploitations françaises, la question des agriculteurs qui seraient payés surtout moins bien que les autres. Que faire ? Il faut partager de la valeur. Voilà ce qu'allait nous dire Cécile. Je ne veux pas déflorer ses propos, mais voilà ce que la voix de gauche sur RMC voulait nous dire. Cécile, j'ai tenté de dire à peu près ce que vous vouliez dire. Je crois que vous êtes à nouveau avec nous. Je voudrais quand même vous reposer une question. Qu'est-ce qu'on fait ?
Mais d'abord, on essaye de comprendre ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est pas la taille des exploitations, c'est la structure dans laquelle on fonctionne. Vous savez ce que c'est un monopole quand il y a une seule personne qui vous vend des produits. Ben, en France, allez, il y a 400 000 exploitations agricoles, il y a 60 millions de consommateurs, et entre les deux, il y a 6 centrales d'achat, dont 3 représentent 60% de l'achat. Donc en fait, les prix, ils sont pas forgés par les agriculteurs, ils représentent pas la valeur de la production, et surtout, plus la production est de qualité, plus les agriculteurs sont pressurés. Donc c'est ce système qui va pas, c'est un problème de prix agricole, il faut que les Français mangent les produits de leurs agriculteurs et des produits de qualité. Et aussi, s'inquiéter de l'environnement. Elle n'a pas prononcé le mot environnement dans un pays qui fait face au dérèglement climatique. La ministre de l'Agriculture, elle était à côté de la plaque.
Vous êtes pour une forme de partage de la valeur ?
Total. Il faut que travailler dans le secteur de l'agriculture, ça puisse nourrir les gens qui travaillent aujourd'hui. On pousse parfois des agriculteurs, même s'il y a eu un certain nombre de lois, à vendre à perte. C'est-à-dire que ils ne peuvent pas vivre de leur travail, alors même que les consommateurs achètent à des prix qui sont des prix importants. Pourquoi ? Parce qu'une grande partie de la valeur ne va pas aux agriculteurs, mais aux transformateurs et surtout à la grande distribution. Donc c'est ça qu'il faut changer, c'est à ça qu'il faut s'attaquer et c'est là qu'un ministre de l'Agriculture se grandirait.
Merci beaucoup, Cécile Duflo. Revenez, Cécile qui avait pris évidemment quelques jours. Et je ne vous le reproche pas, Cécile Duflo, la voix de gauche sur RMC. Il est 7h56, dans un instant, la météo et le journal. À la une du journal de 8h, Rachida Dati qui quitte donc le gouvernement. Objectif Mairie de Paris. Elle sera non seulement à la une du journal de 8h, le bilan aussi au ministère de la Culture, mais elle sera aussi mon invitée à 8h30 dans le face-à-face. On va faire aussi un point complet sur la météo avec Géraldine Nemory. Douceur record. Et puis juste après le journal d'économie, avec vous, Emmanuel Le Chip, vous avez une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est ça ?
Exactement, mais je vous donne la bonne. D'abord, super, c'est que nous avons effacé les pertes de pouvoir d'achat provoquées par la vague d'inflation post-Covid.
Vous nous le dites dans un instant, il est 7h57.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.